Chapitre 7. Jeannot, il y a là deux pères jésuites qui demandent à te voir, le père Guillaume et un autre que je n'ai jamais vu. Peux-tu les recevoir?
Mais bien sûr, pourquoi ne les recevrai-je pas? Je ne suis pas à la mort quand même, dit-il avec un petit rire qui resta sans écho. Les deux visiteurs entrèrent dans la chambre un instant plus tard. Le premier s'avança vers le lit, la main tendue. L'autre petit homme, assez âgé, sec comme un bout de bois et tout blanc de poils, resta en arrière. Son œil fit vivement le tour de la pièce et s'arrêta un instant sur le tableau des mages.
« Bonjour, Jean, je suis venu prendre de tes nouvelles. À vrai dire, j'en avais déjà reçu du frère Benoît. »«
Bien, tu l'as vu, il t'a sans doute dit qu'il devenait grand temps de venir me voir. » L'autre confirma. « À quoi bon dissimuler ? Le père Guillaume était un de ses vieux amis. » Dans l'exacte mesure, pensait-il à l'instant, où l'on peut avoir un ami jésuite. C'était un homme à peine plus jeune que lui, et il appartenait depuis longtemps à cette communauté de pères qui s'était établie un quart de siècle plus tôt à Namur pour y fonder un collège. « Jean, je te présente le père Sacchini. » L'autre s'inclina légèrement, mais s'abstint de lui serrer la main.
« Mon père, vous passez à Namur et vous n'avez sans doute point voulu la quitter sans venir saluer un vieil ami de votre ordre. »
Le père Sacchini vient d'Anvers, il s'en retourne à Rome. À vrai dire, rien ne le conduisait à Namur sinon la nécessité de te voir.
« Diable, voilà qui va bien au-delà des petites nouvelles du frère Benoît, si l'on s'inquiète de ma santé jusqu'à Rome maintenant. »
Le père Guillaume était troublé. Était-ce embarras d'être ainsi percé à jour, ou plutôt gêne de ce ton désinvolte que prenait le vieux musicien, ton peut-être déplacé avec un tel visiteur? D'un regard, il appela celui-ci à la rescousse.
« Mon frère, je prie Dieu qu'il vous garde. »
Il parlait bas, d'une voix ferme, dont le ton égal était relevé d'une pointe d'accent italien. Le maître des lieux se disait que ce visiteur devait être son aîné de 10 ou 15 ans. Malgré son âge, il courait donc les routes d'Espagne en carriole, alors que lui finissait en un lit. Mais l'autre continuait. « Remettez-vous donc à lui, car c'est en lui, étant fidèle, qu'on est rendu à la vie. Ne lit-on pas au livre de l'Exode, c'est moi, le Seigneur, qui suis ton médecin ?»«
Certes, mon père, il est dit aussi, chez saint Matthieu, si je ne m'abuse, j'ai été malade et vous m'avez visité. Soyez-en donc remercié. »
Matthieu, chapitre 8, en effet, je vous vois savant glossateur et je m'en félicite. Ce que je ne suis pas seulement musicien, mais aussi homme d'église.
Sans doute, voyons, vous souvenez-vous de moi? Questionna-t-il soudain, le considérant d'un œil pénétrant.
Me souvenir de vous? Le devrais-je, mon père?
Mais le nommé Sacchini ne se donna pas la peine de répondre. La soutane noire vivrolta soudain et le vieux jésuite fit quelques pas jusqu'au tableau.
Le malade le suivait du regard en fronçant le sourcil, cherchant manifestement au plus profond de sa mémoire la réponse à la question qu'il venait de poser. Les trois rois figés dans leur misérable cortège, voilà pour l'heure tout ce qui semble intéresser le voyageur.
« C'est cette peinture, sans doute ? » demanda-t-il à l'attention du père Guillaume.
« Oui, je crois. » Il examina longuement la toile, promenant même le doigt sur les craquelures du vernis.
« La façon en est curieuse, êtes-vous bien sûr ?
Je n'en ai jamais vu d'autre. »
Sur sa couche, le musicien avait pâli, chose qu'au vu de sa pauvre mine, on n'aurait pas cru possible.
C'est à lui que s'adressait maintenant le curieux inquisiteur.
« Que comptez-vous en faire ? » ?»«
Comment cela ? » ?»«
Mon Dieu, oui, supposez que le Seigneur vous rappelle à lui. Qu'avez-vous prévu pour ce tableau ? » ?»«
Que sais-je, moi ? »
Voyons, point de mystère, vous connaissez comme moi le secret de ces rois, ou du moins vous pensez le connaître. Vous comprendrez que même après tant d'années, il ne nous est pas indifférent de savoir ce qu'il en adviendra.
Je pensais enfin peut-être en faire lait à l'église Notre-Dame.
Notre-Dame, c'est bien cette collégiale toute voisine.
C'est elle, en effet, j'ai toujours été fidèle à la paroisse Saint-Michel qui y est attachée, j'y fus jadis baptisé et...
Personne, depuis votre retour, n'est venu s'enquérir de ce tableau.
Personne, non. On n'en a pas démonté l'encadrement, questionna-t-il, examinant les baquettes de bois.
Pas davantage.
Le vieux jésuite fit le tour de la chambre. Il avisa l'épinette et laissa ses doigts courir sur le clavier.
Do, si, do, la, si, sol, la, la.
Le thème du Dies Irae.
Tommaso d'Acellano, un Italien comme moi, mais franciscain, comme votre ami le frère Benoît. Vous voyez, je suis aussi un peu musicien, fit-il avec un petit sourire. Bien, pour le tableau, faites comme vous l'entendez. Dieu vous garde, monsieur le chanoine. Il lui adressa une brève bénédiction et disparut, suivi du père Guillaume qui n'eut que le temps d'esquisser un pauvre sourire, geste d'excuse et d'impuissance. Dans son lit, le vieil homme était perplexe. Quand nous lui chantions l'office en grande pompe à l'Escorial, le nonce Cayetano savait certainement que 2 semaines plus tard, le Saint-Père allait se réconcilier avec le roi Henri IV. On rit certes en Espagne, quand on apprit l'humiliation infligée par Clément VIII aux évêques de Rennes et d'Évreux, ils étaient venus reconnaître l'apostasie de leur roi et se livrer en son nom à l'Inquisition, implorant l'absolution papale. Le pontife les avait fouettés de verges aux accents du miserere, à raison d'une volée de pois verts à chaque verset, et nous le connaissions par cœur, le psaume 50, il compte 20 strophes, pas une de moins. Mais nul n'était dupe de cette comédie, les coups devaient être moins douloureux au postérieur des prélats qu'à l'orgueil de l'Espagne, qui perdait ainsi l'excuse de la religion pour faire la guerre au royaume ennemi. C'est que la guerre contre la France avait repris au début de l'année. Certes, de mémoire d'homme, on avait toujours été en conflit avec elle, mais cette fois, les choses avaient été faites dans les règles. Henri IV avait déclaré une guerre en bonne et due forme, lassé sans doute de voir mercenaires allemands ou italiens, soldats wallons et espagnols, parcourir sans vergogne ses provinces et lui tailler des croupières avec la Ligue, toujours puissante et insoumise, malgré sa conversion. Les choses commencèrent mal pour nos armes. Le roi Henri, accouru en personne avec une petite troupe de cavalerie, parvint à bousculer l'armée du connétable de Castille qui en voulait à Dijon et Vesoul. Cette victoire lui rallia la Bourgogne tout entière. Heureusement, dans le nord, nos armes eurent plus de succès. Le vieux duc de Fuentes, neveu du duc d'Albe et gouverneur des Pays-Bas, mit en complète déroute l'imprudente armée de Turenne devant la place de Doulan. Il lui tua, dit-on, 700 cavaliers et 2000 fantassins, sans perdre plus de 5 ou 6 hommes. À cet exemple, les bourgeois de Cambrai livrèrent bientôt leur ville, qui est depuis et jusqu'à la fin des siècles sans doute l'un des plus beaux fleurons des Pays-Bas. On en fut heureusement surpris à la cour, car on était plutôt coutumier des catastrophes, et on se racontait avec délectation le détail de la bataille. Ainsi, comme 4 soldats espagnols s'étaient disputés pour en tirer rançon la personne de l'amiral de Villars, couché blessé par terre en son armure dorée et empanachée, le contrôleur Contreras avait clôturé le débat en lui faisant briser la tête par son écuyer. Chacun déplorait le fait. Les sensibles plaignaient l'infortuné seigneur, qui, comme les chevaliers des temps passés, était tombé couvert des rubans de sa maîtresse. Les pragmatiques déploraient plutôt qu'on eût perdu ainsi une rançon de 200 000 ducats à tout le moins, ce qui était cher payé pour faire un exemple. Ce Juan de Contreras n'était donc guère raisonnable. Contreras, ce nom ne me disait rien alors, Dieu sait pourtant combien il allait m'être familier. On accusa aussi nos armées d'avoir été excessivement cruelles lors du sac de la ville de Doulan. Les capitaines de Fuentes s'en défendirent par main courrier. On n'était pas allé jusqu'à massacrer les femmes et les enfants. On avait seulement égorgé 2 500 soldats et 1 600 habitants. Qu'y faire, après tout, c'était de leur faute. S'ils avaient été moins nombreux, on en aurait moins tué. On remarqua que la victoire avait eu lieu la veille de la Saint-Jacques, ce qui nous permit de nous y associer par un vibrant office d'action de grâce. Le roi se contenta de révoquer Fuentes et de le renvoyer en Italie, ainsi qu'il avait toujours fait de ses capitaines victorieux. S'il m'en souvient, c'est en cette occasion qu'on chanta pour la première fois publiquement un motet de notre condisciple Guéry de Guersem. La boucle était ainsi bouclée, les enfants devenus chantres, puis naturellement compositeurs. Guéry était donc le premier de nous 5 à terminer une pièce jugée digne d'être exécutée à la chapelle. Nous allions tous cependant y parvenir bientôt, preuve s'il en fallait de l'excellence de notre formation. Je l'ai dit déjà, Riri était le plus travailleur d'entre nous. C'était un garçon placide, méthodique. Il était bon compagnon, sans pour autant se laisser aller aux excès et aux étourderies de notre âge. Il ne fréquentait jamais les mauvais lieux où l'on nous voyait parfois, et gardait envers les choses de l'État et de la religion une discrétion de jugement dont nous ne savions s'il était prudence ou conviction. Bref, un vrai petit chanoine, alors que, ironie du sort, il serait un des rares parmi nous à ne le jamais devenir. Quand Philippe lui annonça qu'on chanterait à l'office des modulations sacrées de sa plume, il rougit de plaisir. Quand d'autres auraient sauté de joie, il se contenta de bégayer d'émotion. Il s'inquiéta, donner à la messe mes compositions, mais on va rire de moi, je suis trop jeune. Ah, j'étais plus jeune encore quand on a chanté les miennes, rétorqua Philippe. Mais as-tu corrigé mes musiques? Il y a certainement des choses qui ne sonnent pas bien. Il y a sans doute des passages que je n'aurais pas écrits comme toi, mais ils ne sont pas fautifs pour autant. Je ne peux pas tout vous apprendre. Vous en savez maintenant autant qu'on peut en connaître de la musique, ce qui est somme toute peu de choses. Le reste est question d'invention. Vous avez vos idées, vous les sentez mieux que moi, et c'est à vous maintenant de les mener à bonne fin. À dater de ce jour, en effet, Roger renonça à nous apprendre quoi que ce fût, réservant ses attentions à la jeune nichée des Cantorcios. Il nous poussait cependant constamment à composer nous-mêmes. Nous cherchions souvent l'inspiration de nos travaux dans ses propres compositions. Les thèmes de ses chansons françaises se trouvèrent ainsi plus d'une fois au Kyrie ou à l'Agnus de nos premières messes. Certes, le procédé est vieux pour le monde, mais notre esprit facétieux se plaisait à reconnaître aux déplorations de l'office, travesties par le mode et le tempo, les mélodies qu'il avait faites à l'origine pour dépeindre caresses et baisers dans des bosquets en fleurs. Notre maître nous chassait donc clairement du nid pour nous faire voler de nos propres ailes. En même temps, il semblait soucieux. Moi qui connaissais avec Nicolas la part cachée de sa vie, je pressentais que cette inquiétude lui venait de là. Je lui posais un jour clairement la question, lui proposant même maladroitement une aide qui dut lui sembler bien dérisoire. Il eut un pauvre sourire. « Mon petit Jean, si tu veux un bon conseil, c'est d'oublier tout ce que j'ai pu te dire et de ne plus t'en préoccuper, cela vaudra mieux pour toi. Mais si je m'en préoccupe, c'est précisément parce que tu nous y as mêlés. Tu n'as donc plus confiance en nous ?»« Ah, ce n'est pas ça, mais j'ai eu tort, je ne savais pas la force de cette machine, elle peut tous nous broyer. »« Mais dans ta position, tu n'as rien à craindre, et d'ailleurs tu n'as commis aucune imprudence. » Qu'imagines-tu donc? Qu'est-ce qu'un maître de chapelle quand on s'est débarrassé des plus hauts ministres du royaume? Quand des papes eux-mêmes sont, sans raison apparente, soudainement passés de vie à trépas? Certes, on peut me faire bonne figure, publier mes œuvres, me récompenser, mais si l'inquisition veut ma tête, elle ne vaudra pas plus cher que les écus de ces bénéfices qu'on m'accorde et dont souvent je ne vois même pas la couleur. Et quant aux imprudences, qui sait, où ai-je pu parler avec quelques réserves de ce qu'on fait endurer aux morts et aux juifs? Moi-même, je l'ai oublié, mais les gens du Saint-Office ont pu s'en souvenir, eux qui sont partout et qu'on ne connaît pas. Ils s'en trouvent peut-être chez les frères mineurs, à la chapelle aussi, sans doute. Tiens, par exemple, à Ratia l'autre jour, que faisait-il derrière ma porte? Philippe faisait allusion à un incident survenu la semaine précédente. Nous étions dans son cabinet à l'Escorial, à deviser bien innocemment entre chantres avec Anglebert Hurlure, Niquet Soussard et Charles Fronville. Il s'était levé et, tout en parlant, s'était doucement dirigé vers sa porte qu'il avait ouverte brusquement pour se trouver nez à nez avec Gaspard de Arratia. Surpris, celui-ci ne s'était pas ému pour autant, arguant de quelques musiques à prendre pour l'office. Philippe n'avait pas insisté, mais qu'est-ce que le copiste faisait vraiment là? Ce que j'ignorais encore, c'est que l'inquisition est partout, et non seulement en ses dehors les plus visibles, édits de foi, tribunaux et consulteurs. Sa force principale, c'est l'immense armée de ses familiers, sorte de police bénévole et aveugle, employée à l'espionnage, vouée à la délation. Illustres ou obscurs, ses membres tirent de cette fonction privilèges et prestiges, d'autant qu'ils ont dû, pour l'exercer, donner des preuves rigoureuses de la pureté de leur sang. Il nous arriva à l'automne une lettre de Nicolas Hanon, ce collègue qui avait eu l'imprudence de faire la sarabande en princière compagnie. Il était donc rentré, sauf au pays. Nous en fûmes bien heureux, car aux dangers ordinaires du voyage, nous craignions que ne fussent ajoutés d'autres périls. Qui pouvait dire si ce renvoi n'avait pas été un moyen de l'expédier plus loin encore, à la faveur de quelques mauvaises rencontres au coin d'un bois ou dans la salle d'une auberge.
Le pli cependant avait été ouvert, comme nous le fit remarquer Englobert Hurlure, son premier destinataire. Le cachet avait été tranché à ras du papier, puis mal recollé, de sorte qu'au premier effort, il avait cassé au même endroit, révélant la coupure. On conféra longuement à la chapelle sur cette indiscrétion qui n'était pas d'usage à la cour. Avait-on lu le courrier lors de son envoi parce qu'on surveillait Hannon, ou au contraire à son arrivée pour le motif qu'il nous était destiné? Ce sceau si mal recacheté n'était-il pas lui-même manière d'avertissement? Les espions, quels qu'ils soient, avaient dû rester sur leur faim. Notre confrère ne nous entretenait ni de religion, ni d'affaires d'État, ni même de danse prohibée. Il écrivait donc à son vieux confrère Englebert, mais par son truchement s'adressait à nous tous. Il eut un mot pour moi en particulier. Il déplorait le malheur qui avait touché ma famille, et la retenue de son propos me laissa penser qu'il n'était pas sûr que Philippe m'en eût donné la nouvelle. Pour le reste, il ne donnait pas l'impression d'être enchanté de son retour. On lui devinait davantage la nostalgie de sa carrière à la cour que la joie du retour et de retrouvailles. On croyait le pays pacifié pour de bon, il n'en était rien. Les rebelles des provinces unies y avaient remonté la Meuse jusqu'à Huy, à 6 ou 7 lieues de Namur, et s'en étaient emparés. La guerre avait ramené les brigandages, et les campagnes étaient peu sûres. Hannon se plaignait cependant davantage des faiblesses de l'art qu'il devait pratiquer maintenant, des voix insuffisantes, des musiciens médiocres. Le lointain souvenir des chapelles de notre enfance ne nous laissait pas cette impression, mais nous savions qu'il était pour une bonne part illusion. Le rêve de retour que nous entretenions toujours peu ou prou en prit donc encore un coup. S'il est vrai que chaque homme garde et nourrit en lui l'assurance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, sa certitude sans doute s'étiole à mesure qu'il approche du terme. Ainsi pour moi commençait-elle déjà à se faner. C'est à la fête de Tous les Saints que je remarquai pour la première fois la mauvaise mine de notre maître Philippe. Rogier était, comme j'ai dit, un homme plutôt bien portant, fait de cette belle corpulence qui inspire d'ordinaire des idées de prospérité réjouie. Or, s'il n'avait pas maigri, son teint était pâle, et ses rondeurs me parurent soudain moins épanouies comme faites de mauvaise graisse. Surtout, son peu d'entrain me frappa. C'était comme s'il avait disparu soudain l'état de grâce qui toujours l'habitait dès avant le premier accord d'un psaume ou d'un motet, et qu'il savait si bien nous communiquer. Il jouait distraitement, nous donnait comme par habitude l'impulsion d'un tempo qu'il laissait filer sans le suivre. Je manquis de sa santé après l'office. « Alors, Philippe, tu m'as l'air bien fatigué aujourd'hui. »« Fatigué, je n'ai nul motif de l'être, disons plutôt que je suis malade. »« Malade, crois-tu, n'est-ce pas plutôt la langueur de l'automne qui te saisit comme elle nous touche tous ?»« L'automne ne m'a jamais donné sueur, maux d'entrailles ni insomnie. Non, je suis bel et bien malade, à ce point que j'ai eu du mal à mener l'office jusqu'à son terme. »« As-tu consulté les médecins du roi ?»« Oh, tu sais, les médecins, et surtout ceux du roi. » Comme maître de chapelle, Roger était sur la liste des privilégiés qui pouvaient bénéficier des soins des médecins personnels de Philippe II. En ces temps, il n'avait cependant jamais profité de cet avantage, ce que, comme moi, il tenait les disciples d'Esculape pour des charlatans, plus prompts à expédier le malade à coups de saignée et de purgation qu'à soutenir le cours naturel de la guérison. Je crois que ceux d'Espagne sont plus à craindre encore que les nôtres. Ils professent en des mémoires latins et savants des théories aussi contradictoires qu'abracadabrantes qu'ils se jettent à la tête avec mépris et suffisance. Tel qui entend ne traiter ses patients qu'à coups de clistère et de cataplasme haïra son confrère, qu'il pratique la saignée jusqu'à l'épuisement du malade ou le fasse gonfler comme une outre en le gavant d'eau chaude. Le docteur Luis Mercado, médecin en titre de la famille de notre roi, n'avait pourtant pas mauvaise réputation. Après ses confrères Herman López Mexia et Martin de Azpeitia, son moindre titre de gloire n'était pas d'avoir conservé jusque-là à son peuple un souverain que l'on disait à la mort depuis des années. J'allais le faire remarquer à Philippe quand je compris que cette réserve quant aux médecins, surtout ceux du roi, n'avaient peut-être pas été faits à la légère. Soupçonnait-il que sa maladie n'était pas due à la fatalité? En ce cas, effectivement, les médecins de sa majesté n'auraient pas été pour lui de plus sûr secours. Le mal de notre maître, hélas, s'aggrava rapidement. De violentes douleurs lui tenaillaient le ventre, ne lui laissant nul repos. Bientôt, il ne put exercer ses fonctions, laissant la chapelle aux mains d'Adrien Capi. On s'en inquiéta en haut lieu, et d'autorité on lui adressa la faculté, sans s'inquiéter de sa méfiance. Le docteur Mercado le purgea et saigna, comme doivent faire les gens de son état sous peine de passer pour des ganaches. Encore eut-il le bon goût de ne le faire que modérément, comme la modestie de ne pas laisser le malade s'illusionner sur la puissance de sa science, car ses soins ne furent d'aucun effet, et ce fut grande misère de voir s'éteindre comme chandelle privée de cire un homme aussi jeune. Quant à nous, nous errions comme des âmes en peine dans les corridors de l'Escorial, longs et gris comme cet hiver madrilène. C'est que Roger était pour nous, en ce pays étranger, à la fois le père que nous avons quitté, le meilleur maître qui se puisse rêver, un ami enfin, au premier temps de notre âge d'homme. Les petits chantres pleuraient, et nous, les grands, n'en menions guère plus large. Nous nous forcions à parler librement, en homme que rien n'émeut, mais j'avais la gorge si nouée qu'avant de dire la moindre banalité, je devais me maîtriser et assurer ma voix pour lui donner son ton ordinaire. Quand Philippe arriva à l'extrémité, nous pensions qu'il nous appellerait pour d'ultimes adieux et recommandations. En fait, il ne demanda à voir qu'un seul d'entre nous guéri de Gersen. Pourquoi lui et non les autres? Le voulait-il pour successeur? J'en étais déçu, un peu jaloux sans doute, car sans raison aucune, je m'étais cru le préféré. Mais j'acceptais cela avec le soulagement un peu lâche d'échapper à une trop vive émotion. Iri sortit de la chambre en pleurant à gros bouillons, et nous dûmes nous cacher pour ne pas faire de même. Le moribond reçut le même jour d'autres visiteurs, le notaire Gascon de Galvez et son clerc. Il leur dicta longuement ce qu'il entendait qu'on fît de ses revenus. Niquet Zouzard et Adrien Capi furent ainsi chargés de percevoir ses gages, ainsi que les sommes dues pour l'entretien et la nourriture des petits chanteurs dont il avait personnellement la charge. Il avait toujours été attentif aux choses de l'argent. Il le restait jusqu'au bout, dans l'intérêt des siens, allant jusqu'à faire le compte des ducats qui lui restaient dus sur sa pension de l'évêque de Léon. Le seul qu'on vit alors à son chevet fut notre ami Fray Hieronimo. Le mourant dura 10 jours encore, et le franciscain ne le quitta guère. Philippe Roger, maître de chapelle de Sa Majesté le Roi d'Espagne et l'un des plus grands musiciens de son temps, rendit son âme à Dieu au matin du 29 février 1596, comme si, à un homme comme lui, il fallait un anniversaire mortuaire hors du commun qu'on ne marquerait que tous les 4 ans. Il n'y avait pas tout à fait 34 ans qu'il était né à Namur, petite ville des Pays-Bas, au confluent de la Sambre et de la Meuse. Je ne suis jamais s'il était passé de mort naturelle ou si quelque raison politique l'avait envoyé au tombeau, mais ne se posa-t-on pas la même question au cours de ce règne pour nombre de ministres, de princes et même de papes. Dès qu'il fut passé, Pedro de Lora, lieutenant des écuries du roi, vint se saisir de tous les papiers et livres qui traînaient dans la chambre mortuaire et les enferma dans un grand coffre qu'il fit clore publiquement par une forte serrure. La démarche n'était pas courante, mais qui étions-nous pour lui demander des comptes ou même pour nous en étonner? « Il faut veiller à respecter les dernières volontés de votre maître, crut-il bon de préciser. Ce coffre sera ouvert le moment venu et son contenu inventorié devant ces messieurs les notaires. » Nicolas et moi ne pûmes nous empêcher d'échanger un regard, c'est que nous savions ce que ces papiers pouvaient renfermer de secret. On porta Philippe en terre le surlendemain, après un requiem chanté. Il rejoignit à la chapelle de Juan Mendes son maître de la Halle, qui l'y attendait depuis près de 10 ans déjà. Il n'y eut guère de monde à ses funérailles, sinon les musiciens flamands et espagnols qui composaient la Capilla Real. Pas un seul, en tout cas, de tous ces grands qui voici peu encore applaudissaient à ses musiques, le comblant de bien et d'honneur. Rien là d'étonnant, c'est notre sort commun à nous, musiciens, d'être traités comme batteleurs et comédiens dès le dernier soupir rendu. Il est encore heureux qu'on ne nous dispute pas une sépulture chrétienne. Fussions-nous chanoines, laissions-nous à la gloire de Dieu les plus belles prières qu'un homme puisse faire. Notre plus belle vengeance n'est-elle pas cependant de savoir que nos musiques resteront aux générations futures, qu'elles leur donneront la même joie et la même émotion qu'à nous, quand nous resterons plus même cendre ni poudre du corps de nos contempteurs? Quel choix de musique chantée pouvait-on faire pour l'office funèbre? Roger n'avait, au dire de Guéry et de Fray Hieronimo, laissé nulle volonté à cet égard. Il était assez naturel que le premier musicien par le rang honora un prédécesseur auquel il avait vocation de succéder, mais le vice-maître Adrien Capi était trop modeste compositeur pour y prétendre. Et quant aux autres, Turlure dans les aînés, Yeri, Mathieu ou même Nicolas et moi dans les plus jeunes, lequel pouvait ambitionner plus que son collègue un tel honneur. On chanta donc du Rogier aux funérailles de Rogier, ce qui était certes le meilleur hommage musical qu'on pouvait lui faire, à défaut d'être celui qui l'aurait approuvé. Le temps fut ce jour-là clair et frais, d'une nuance proche de la sereine espérance qui coula des paroles de Fray Renonimo. Il était naturel que le franciscain officiât plutôt qu'un jésuite, et la cour ne s'y opposa pas. Cet homme qui savait sans doute bien des secrets n'eut pas un mot de révolte. Il fut simple, à l'image de ceux de son ordre, et émouvant par l'amitié qui l'unissait à celui qu'on portait en terre. Chose inouïe, l'espagnol qu'il était fit son homélie en français. C'était contre tous les usages, même si c'était là notre langue et celle du défunt, et il fallait du courage pour user ainsi à Madrid du parler d'une nation ennemie, fût-ce sous couleur d'hommage. Il ne s'en expliqua point, et nul ne lui posa de questions. C'était comme si on voulait, en haut lieu, éviter tout remous autour d'un personnage qui appartenait déjà définitivement au passé. Le soir même, nous nous promenions dans la ville. Nous, les six inséparables chantres qui arrivions par la force des choses au premier rang de la chapelle. Nous n'osions en parler, nous en étions gênés même, mais une question nous préoccupait évidemment, qui succéderait à Rogier. Certes, il se trouvait de plus âgé que nous, Mickey Souza, qui nous avait amenés tout enfant de par-delà la mer, Anglebert Turlure, qui avait composé de quoi tapisser de musique tous les murs de l'Alcazar, Adrien Capi même, nous le savions et tous savaient, eux aussi, que nous étions meilleurs musiciens. C'était ainsi, et le mérite en revenait à Philippe, dont nous avions été 10 ans les élèves, alors qu'eux n'avaient été que ses compagnons. Dans un jardin près de la rue du Lion, une femme chantait, en s'accompagnant du luth. C'était singulier en cette saison, sans fleurs au bosquet, ni fleurs aux arbres. La musicienne ne pouvait nous voir, et nous restâmes un long moment à l'écouter. La mélodie était douce et triste, la voix belle. Je pensais reconnaître la façon de Victoria, quoique je ne lui connusse pas ce répertoire. Victoria, le plus grand sans doute en Espagne de son temps, allait d'ailleurs s'établir à Madrid à peu de mois de là. C'était un peu comme s'il avait craint, jusque-là, que ne lui fît ombrage un plus grand que lui, venu de lointaines provinces du Nord. Il ne risquait plus rien, désormais. Je me laissais distraire de la musique en observant mes compagnons. Le futur maître de chapelle s'y trouvait-il ? Géry de Guersem me semblait le mieux placé, c'était le plus sérieux d'entre nous. Et puis n'était-il pas l'élu, le seul que Philippe avait jugé digne d'appeler à son lit de mort? Mathieu était peut-être le plus doué, mais Nicolas n'était pas manchot non plus. Ni moi d'ailleurs. Mais oui, après tout, pourquoi pas moi? À me voir ainsi soupeser les mérites de mes amis, à leur chercher des faiblesses comme des pouces sur la tête, j'eus un moment de honte et une larme de rage. Pour la cacher, je m'en allais le premier, laissant la chanteuse à la complainte de son amour déçu. Il avait fallu bien longtemps, jadis, pour désigner un successeur à de la Haye, alors que le choix de Philippe allait de soi. On pouvait donc s'attendre à rester bien longtemps sans maître de chapelle, tant il est vrai qu'aucun candidat ne s'imposait cette fois à l'évidence. Mais les voies du pouvoir sont impénétrables, et notre nouveau maître fut désigné dans les mois qui suivirent. À la surprise générale, ce fut un des plus jeunes chantres, notre ami Mathieu Romarin. La nouvelle causa quelque émoi, c'est que Mathieu n'avait, comme moi, que 22 ans. Il prenait ainsi le pas sur tous les chantres chevronnés qu'il avait connus enfant et était parfois même en âge d'être son père. De surcroît, s'il était à l'évidence supérieurement doué, il n'avait encore guère composé. On glosa donc sur cette nomination. Certains y virent la volonté du roi de s'assurer un homme qui lui devrait tout, neuf assez pour n'avoir pas d'idées mauvaises, plus accommodant peut-être qu'un de ses aînés. On prit aussi ce choix pour un désaveu posthume de Rogier qui semblait, en ces derniers moments, avoir voulu faire de Guersem son successeur. Je ne laissais pas d'être un peu frustré, pensant justement sans doute avoir à peu près autant de titres que Mathieu à faire valoir, ou plutôt aussi peu. J'étais soulagé aussi, car la paresse, ou du moins le goût de la tranquillité, l'avait toujours disputé chez moi à l'ambition. Quant au principal intéressé, qu'on ne désignerait plus à son grand âme que sous le patronyme hispanisé de Romero, il allait faire preuve rapidement d'une étonnante autorité au point d'être surnommé El Capitan. Qu'il avait donc changé le petit garçon qui rêvait avec nostalgie aux forges et aux moulins de son pays d'entre cendres et meuses. Si Matthieu se trouva ainsi investi de l'autorité de Philippe Roger, les volontés dernières de celui-ci devaient être bien respectées quant à ses modestes effets qui revenaient à Guéry de Guersem. On en fit l'inventaire le 15 septembre, ce pourquoi fut requis à nouveau un notaire du nom de Francesco de la Quintana, ténébreux personnage qu'on aurait pris pour un grand Castille, tant il semblait tenir pour crotte de bique le reste de l'espèce humaine. La chose n'alla pas sans peine, car, curieusement, Laura n'avait plus la clé du coffre qu'il avait pourtant lui-même clos naguère. Il s'embrouilla dans les explications, et cela confirma le soupçon où nous étions que toute cette procédure n'avait eu d'autre but que de faire examiner par le menu les affaires de notre feu maître. Ne pouvant ouvrir le coffre, le notaire prit un air terrible et traita Laura, tout lieutenant des écuries du roi qu'il fut, comme s'il allait sur l'heure le carotter de sa main. On alla cependant quérir le serrurier, qui fit sans difficulté jouer le peine. L'homme de loi put alors procéder sous l'œil des témoins et de Guéry. Celui-ci nous en fit un récit fort plaisant, car Quintana, qui pensait sans doute inventorier des trésors, fut fort dépité en ne trouvant que papier, livres et musique. En voilà un certes qui n'aurait pas grande opinion de l'agent musical. Il avait cependant l'obligation de le décrire pièce par pièce et plongea dans ce dessin la main dans le coffre d'un air dégoûté comme s'il avait à vidanger des latrines. En homme de devoir que rien n'arrête, il écrivit donc la longue litanie de ses parchemins, livres et cartons où étaient couchés les innombrables messes, motets, chansons françaises, madrigaux et magnificat du dit maître de chapelle. Les simples brouillons qu'il extrayait comme s'il se proposait d'en faire sur le champ le moins noble usage qu'on puisse attendre d'un papier ne seraient certes pas pour Guéry et pour nous les moins intéressants. Des thèmes encore inédits, des harmonies trouvées par lui et non encore entendues, c'était là l'héritage le plus propre à nous ravir, comme d'ailleurs à nourrir pour quelque temps nos idées musicales. Outre ces musiques, on trouva dans le coffre quelques livres en langue française et italienne, parmi lesquels un recueil d'Andrea Gabrielli, ce compositeur qui m'a enchanté, a voyagé dans toute l'Europe avec le grand Lassus. Il a été organiste à Venise, élève de Willard, un autre flamand. Guéry ne tira nul orgueil de cet héritage, qu'il considéra toujours comme un bien commun de la chapelle dont il n'était que dépositaire. J'ai souvent eu l'occasion d'examiner par le détail toutes ces musiques, je ne m'en suis pas privé, pas plus que Nicolas, et jamais nous n'y avons retrouvé ces partitions suspectes dont la découverte avait embarrassé Philippe, ni aucune autre truquée de la sorte. Sans doute avait-elle disparu entre le jour de sa mort et l'inventaire du notaire Quintana, et dormait-elle maintenant dans les tablettes de quelque inquisiteur. La vie passe, ou plutôt nous passons en elle, petits et grands. On ne s'en rend jamais tant compte qu'aux occasions de grandes joies et peines. Les dernières années du siècle en apportèrent grande moisson à l'échelle du royaume, comme à celle de mes proches. Mon bon Jean, je ne sais si tu as souvenir de ta sœur Antoinette, car j'étais toute petite encore quand tu es partie chez le roi pour n'en pas revenir. J'ai maintenant 19 ans et songe à m'établir, et pourquoi je t'écris avec grande hésitation cependant. C'est que nous n'avons plus de nouvelles de toi depuis bien longtemps, même dans ces tristes temps où la maladie emporta nos parents, notre Seigneur les garde. J'ai entendu dire que tu étais maintenant un grand personnage et que tu voyais le roi aussi souvent que nous, le curé Lambert. Sans doute n'as-tu plus de soucis des petites gens que nous sommes et si lointains qui plus est. Mais peut-être en est-il autrement, aussi dois-je t'annoncer mon mariage prochain. Tu es l'aîné de la famille, et même si je suis libre de disposer de moi, ainsi que le curé me l'a dit, je crois qu'il est de mon devoir de t'en rapporter. C'est que je ne vois plus guère non plus nos deux petits frères, l'un travaille à la campagne dans la ferme d'un de nos parents, et l'autre s'est engagé dans les armées du roi. J'ai été demandé par Simon Léonard, c'est un brave homme de 7 ans mon aîné, boucher de son état. Il va être reçu bourgeois, ce qui est grand honneur, et nos noces devraient suivre. C'est là un bien beau parti pour une orpheline. Je ne sais si tu as pris femme là-bas, ni si tu es père de petits Dussons à la mode d'Espagne. Les enfants que je compte faire à mon Léonard seraient honorés de les avoir pour cousins. Mais on m'a dit aussi que beaucoup de ceux de ton état étaient tonsurés, et si cela est, je te prie de bénir mon mariage. Je t'avoue que je suis un peu seul et perdu de tout ce qui m'arrive, aussi savoir que notre Jean m'approuve et pense à moi me serait grand réconfort. Dieu te bénisse, ta sœur Antoinette. Cette lettre qui m'arriva au printemps de l'an 96 me toucha beaucoup. Si je me souvenais d'Antoinette, ma petite sœur devait avoir 7 ans quand je quittais les miens. C'était une fillette, petite et ronde, à l'image de ceux de notre famille. Elle était bien timide et courait volontiers à la première alerte cacher sa tête bouclée dans les jupes de notre mère Marguerite. C'est vrai qu'elle était en âge de se bien marier même apparemment. Elle avait reçu de l'éducation car cette lettre semblait de sa plume. S'il s'y trouvait quelque faute, elle n'avait pas eu, comme jadis, nos parents, recours au curé pour la composer. Qui étais-je d'ailleurs pour aller lui reprocher son boucher, bourgeois de Namur qui plus est? Je ne manquerais pas de saucisses si un jour j'avais le loisir de rentrer au pays, voilà tout. La boucherie est sans doute état moins noble que la musique, mais il est à coup sûr plus nourrissant. Je pris donc ma plus belle plume pour répondre à Antoinette Dufond, épouse de Léonard, bourgeois à Namur, présumant que les délais de la poste à l'aller comme au retour la trouveraient mariée déjà. Je ne pus qu'y donner de mauvaises raisons sur l'ignorance où l'on m'avait laissé de la mort de mes parents. Je m'y réjouis des nouvelles reçues et de l'alliance prochaine de la famille Dufond à la florissante industrie de la charcuterie. Je terminai par des nouvelles de ma personne sans cependant faire état des crises d'étouffement qui me prenaient et n'évoquant que simplement les choses de la chapelle qui devaient lui être aussi familières qu'à un poisson une pomme. Après ce courrier, les choses ne furent plus jamais comme avant. Un lien avait été renoué, et j'étais au nombre des privilégiés pour qui pourrait exister au monde autre chose que leur vie de musicien. Ce fut le début d'une correspondance régulière où je me fis peu à peu l'image de cette sœur que mon vague souvenir d'enfance ne pouvait qu'esquisser. Je n'attendis pas même une nouvelle lettre pour écrire de nouveau et évoquer les mois où le royaume fut mis l'été de cette année-là par l'audace des marins anglais. On se souvient du drame qu'avait été en 88 la destruction de l'Armada. Les Anglais ne s'en étaient pas tenus là et profitaient maintenant de la faiblesse de notre flotte pour mener par la mer des attaques dans le pays même. Ils avaient multiplié les coups de main, coulant les navires dans les ports, incendiant les bourgs côtiers. Leur audace cependant devint telle qu'au début de juillet, ils se rendirent maîtres de la ville de Cadix. La population s'enfuit, à commencer par les jésuites qui furent premiers partis, avec les femmes et les enfants. Les Anglais en rirent et poussèrent l'humiliation jusqu'à prêter leur propre navire pour évacuer les religieuses et les malades de l'hôpital. C'est peu dire que cette mauvaise plaisanterie des hérétiques anglais fut cruellement ressentie. Passe encore pour l'Espagnol d'être vaincu, mais point d'être déshonoré. C'est que la honra, l'honneur, est pour lui le bien suprême. Deux choses sont égales à ses yeux, tuer un homme ou salir sa réputation, et pour l'homme qui perd celle-ci, mieux vaut la mort que la vie. Les jésuites ne sortirent pas grandis de cet épisode. Combien de martyrs ne leur faudrait-il pas pour le faire oublier? On ne les critiqua guère cependant, car on les savait puissants et aimés du roi, et même les frères mineurs se gardèrent d'épiloguer sur le drame. On parla davantage, quelques mois plus tard, d'un grand massacre de chrétiens qui se fit au Japon. 26 martyrs y furent mutilés, crucifiés et percés de lances à l'image de notre Seigneur. Fort heureusement, des jésuites y trouvaient, mais aussi des franciscains, et même 3 enfants qu'il a plu depuis à notre pape urbain de béatifier. Oxy pour oxy, mieux certes vaut l'être noblement et pour une sainte cause qu'en fuyant lâchement l'hérétique. À la chapelle, Mathieu était le maître, et les choses étaient bien ainsi. Force était aux envieux de constater qu'il était à la hauteur de sa tâche. J'étais, quant à moi, résigné à rester dans le rang et à y faire mon devoir avec modestie et conscience. Une sorte d'amour-propre me poussait cependant à me faire remarquer par quelque belle œuvre, par quelque prouesse qu'il prouva aux autres et surtout me prouva à moi-même que j'existais, que j'avais aussi quelque talent. L'homme a besoin, comme de pain, de la reconnaissance des autres, de leur estime, de leur envie même. Bien sage et bien rare est celui qui trouve son contentement dans la discrétion alors qu'il en peut sortir. Je me lançai donc dans l'écriture d'une pièce plus ambitieuse que les bagatelles que j'avais pu faire jusque-là. J'avoue que l'une ou l'autre idée m'est venue de ces brouillons qu'avait laissé Rogier. J'avoue aussi que ma première composition, de quelque importance, était empreinte d'un brin de servilité. Pourquoi, sans cela, aurais-je choisi pour thème cet extrait du premier livre des rois où la reine de Saba arrive en grand cortège auprès de Salomon et rend hommage à la grandeur de ce roi? Certes, la majesté du cortège était prétexte à la splendeur que je voulais donner à ma musique, ambitieusement écrite à 8 voix. Ils arrivèrent tous de Saba avec une très grande suite, des chameaux chargés d'aromates, d'or et d'une quantité de pierres précieuses. Pour le reste, le compliment de la reine Salomon n'était-il pas une évidente flatterie au seul roi qu'il existât alentour? Bienheureuses tes femmes et tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit Yahvé, ton Dieu, qui t'a montré sa ferveur en te plaçant sur le trône d'Israël. Mais après tout, tant qu'à faire son métier, autant en tirer le meilleur profit qui soit. La chose me prit du temps. J'ai dit que je n'avais nul génie et que le peu de remarquable que j'ai pu faire en ma vie m'a coûté peine et sueur. Passe encore d'écrire pour 4 parties, autre chose est d'accommoder 8 voix qui aient chacune quelque intérêt en participant à l'harmonie de l'ensemble. Je dus m'y reprendre à plusieurs fois, recommencer des phrases entières dont l'édifice patiemment construit s'écroulait quand je croyais y mettre la dernière pierre. Enfin j'y arrivais et soumis, comme il convient, mon travail au jugement de Matthieu. Mon omnes des sabbats me valut une gratification de 8 réaux, ce qui est somme toute peu de choses pour la peine qu'il me coûta. On me les paya sans retard, en dépit de la grande banqueroute qui frappait cette année-là et pour la 3e fois le trésor du roi Philippe. J'eus ainsi cette belle pièce d'argent fin qu'on nomme aujourd'hui piastre et que j'ai conservée. Elle est en cet instant sur ma table, à côté de ce doublon d'or que m'avait donné jadis notre brave Phonascus, pièce bien plus légère que l'autre, mais de valeur triple. Le motet fut chanté plusieurs fois devant le roi à la chapelle de l'Alcazar. J'en tirai une grande fierté et quelques compliments qui m'incitèrent, comme il se doit, à recommencer. Les épousailles de ma sœur furent suivies d'autres de moins modeste portée dans l'intérêt des nations. Celle de l'infante Isabelle Claire Eugénie, fille du roi, et de sa 3e épouse, depuis longtemps oubliée, Isabelle de Valois. Philippe II aimait sa fille, c'était même là à peu près le seul signe qui laissa croire qu'il fût encore doué de sentiments. Si Catalina la Canette s'était mariée à l'âge où la nature l'autorisait, Isabelle était toujours restée près de son père, gardée de ces combinaisons politiques qui font le destin matrimonial des princesses. Elle avait donc, sans regret, laissé à sa sœur le duc Charles-Emmanuel de Savoie, trop bossu pour faire un honnête mari. Ce n'était pas qu'elle fût laide, loin s'en faut, et d'ailleurs pour marier une infante, la chose n'a nulle importance. Simplement, on n'imaginait pas le roi sans la princesse sa fille sur les talons, élégante et grave, seule personne au monde pour qui l'implacable cérémonial de la cour n'existait pas. Elle était même admise dans le cabinet du roi et travaillait avec lui. Tout enfant déjà, elle pliait ses lettres et les mettait en paquet pour les secrétaires. On l'avait promise jadis à Don Sébastien, le roi du Portugal, mais depuis que ce souverain avait disparu à la bataille de Castelquébir et laissé le royaume sans descendance, nul mari sérieux ne lui avait été destiné. Et à quoi bon quitter un père aimé pour de médiocres alliances alors qu'elle pouvait régner? C'est qu'on l'avait imaginée reine de France, à la faveur d'un mariage avec le roi Henri. Et avant cela, sans même avoir à contracter d'union contre son vœu, il avait été question qu'elle le fût au simple titre de nièce du dernier des Valois. Le mariage de sa fille fut pourtant le dernier grand ouvrage de Philippe II, et il ne fallut pas moins que la paix du royaume et de l'Europe pour l'y décider. La principale condition que la France mettait à la paix était en effet que l'Espagne renonçât aux Pays-Bas. C'était là un sujet de discorde depuis des générations, et la chose posée ainsi était hors de question. On trouva donc un accommodement en laissant ces provinces sous la souveraineté d'Isabelle, qui était, somme toute par le sang, un peu des deux royaumes, mais sous la réserve qu'elle resterait à l'Espagne si l'infante venait à mourir sans descendance. On maria par la même occasion la princesse à l'archiduc Albert. Cet arrangement dépeint, on ne peut mieux, l'habileté et le caractère du souverain, car il savait, en choisissant pour gendre son petit cousin d'Autriche, qu'il privait sa fille de toute chance de maternité. C'est que, disait-on, l'archiduc n'avait pas en ses hautes choses tous les attributs de la virilité. Son ennemi dans les guerres des Pays-Bas, Henri IV lui-même, s'en gaussait avec force détail, et il ne manquait pas de pratiquer la comparaison avec son propre arsenal dont il tirait grande fierté. Cette infirmité passe du reste pour bien ordinaire en une famille où l'on se marie entre cousins depuis des générations. Pour conserver cette terre à la couronne d'Espagne, Philippe donnait donc sa fille bien-aimée à un homme incomplet. Du moins, lui évitait-il ainsi les dangers d'une maternité tardive, et peut-être rejoignait-il la raison d'État à celle que l'affection commande. Le calcul n'était point sot. On sait aujourd'hui ce qu'il en est advenu, puisque notre souveraine, que Dieu garde, est arrivée sans descendance à un âge plus avancé encore que le mien. Le recul du temps porte à croire qu'Isabelle eût pu tomber sur un prince mieux membré peut-être, mais moins sage et distingué que ne fut notre archiduc. L'archiduc Albert connaissait bien sa promise dont il avait été familier à la cour d'Espagne. Le roi l'avait en effet élevé comme son propre fils après l'avoir accueilli à la cour en 1570. Le jeune homme était grand amateur de chasse, toujours à courir les forêts du Prado et d'Aranjuez. En 1581, Albert avait accompagné au Portugal son futur beau-père, parti prendre possession du trône laissé sans héritier. Philippe II, qui le tenait en grande estime, lui avait donné là le plus riche prieuré du pays et l'avait même ensuite fait vice-roi et grand inquisiteur. Albert n'avait été rappelé à Madrid que 10 ans plus tard pour recevoir l'archevêché de Tolède à la mort de Gaspard de Quiroga. Cette charge passait pour la plus profitable du royaume et l'agonie de son titulaire avait éveillé bien de pieuses convoitises. Le nouvel archevêque était entré par la même occasion dans la Junta Grande. Enfin, 2 ans avant le temps dont je parle, Albert avait succédé à son frère comme gouverneur des Pays-Bas. Il s'était distingué en reprenant par surprise la ville de Calais ainsi que d'autres places de moindre importance. À ce qu'on dit, l'archiduc fut réticent à cette union avec l'infante. Certes, ne va-t-on pas d'un cœur léger faire la guerre sans mousquet ni arquebuse? Sans doute aussi répugnait-il à quitter l'archevêché de Tolède sur foi des seules promesses de Philippe II qu'il savait versatile, toujours prompt à abandonner par calcul une résolution pour une autre. Quand il fut convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix, il n'abandonna que sous conditions suspensives la pourpre cardinalice qu'il portait depuis 3 ans à peine. Au mois d'août 1598, 11 mois après l'annonce de ses fiançailles, il se résolut enfin à abandonner son état et à faire en grande cérémonie l'offrande symbolique de ses habits ecclésiastiques sur l'autel de Notre-Dame de Halle. Les choses ne tardèrent point une fois décidées. Le mariage fut hâté, car la santé du roi faisait craindre, et non sans fondement, qu'il ne pût durer jusque-là. Philippe II, qui voulait mettre en ordre avant de partir les affaires d'Europe comme celles de sa famille, décida d'unir par la même occasion son fils, le prince héritier, à l'archiduchesse Marguerite. Albert quitta donc Bruxelles pour l'Espagne. Dès le 14 septembre, il prit la route d'Italie, rejoignant sa jeune nièce et bientôt belle-sœur. La princesse était âgée de 14 ans seulement. Albert enviait-il le futur roi d'avoir une femme si jeune alors que son épouse à lui avait déjà largement dépassé la trentaine? Rêvait-il déjà au fait de son mariage? Il ignorait encore que Philippe II avait trépassé la veille de son départ et qu'en Espagne d'autres pompes marqueraient d'abord les esprits, plus funèbres et plus considérables que ses noces d'archiduc, l'un fertile, l'autre pubère à peine. Naissance et mariage des uns, selon les lois naturelles, prélude généralement au trépas des autres. En novembre 1597 était morte la princesse Catherine, cadette des infantes, cette Catalina dont la chapelle était partie chanter le mariage au temps de notre arrivée en Espagne. En une douzaine d'années, elle avait donné à son mari de Savoie la bagatelle de 10 enfants. Il était donc écrit que rien ne serait épargné à Philippe II. Celui-là arrivait aussi à sa fin, frappé de sans cesse plus d'infirmité. Il hésita longtemps avant de prendre ses quartiers d'été à l'Escorial. C'est que 10 lieues, qui ne sont rien en voyageur ordinaire, peuvent être terribles à celui dont le corps n'est plus que plaie et souffrance. Il s'y décida, quand la saison était déjà bien avancée, et partit avec toute la cour sous un soleil torride, porté par des valets sur une litière pour n'avoir pas à endurer les chaos de la route. Il mit 6 jours, quand à cheval il y faut d'ordinaire une courte journée. Là, le roi voulut revoir tout le palais, ses jardins, les cloîtres. On lui fit jouer les carillons, ornement des églises qu'on ne trouvait guère en Espagne et qu'on n'entendrait plus après lui, mais auxquels il avait pris goût aux Pays-Bas, au point d'en faire construire 2 jeux complets. On lui chanta messe aussi, quelquefois encore, dans cette belle basilique qu'on emplissait toujours des reliques de tous les élus de la terre. Je frémis d'ailleurs à l'idée du saint grouillement qui s'y fera au jour du jugement, quand les saints chercheront qui une rotule, qui un fémur, pour compléter leur charpente dispersée aux quatre coins de la terre. Ce bonheur des retrouvailles de Philippe II et de son palais ne dura guère. La fièvre reprit brusquement pour le clouer en un lit de douleur dont il ne devait plus se relever. Sa fin fut épouvantable. Elle dura 2 mois, durant lesquels la cour n'interrompit ses prières que pour s'entretenir en silence des souffrances de son maître, avec cette prolixité dans la peinture du détail morbide qu'ont d'ordinaire les bien portants. Nous étions mieux informés que la plupart, car notre familiarité avec Jean l'ermite, son plus proche valet de chambre, nous assurait de l'agonie du souverain une relation fidèle et terrible. Le malade souffrait tant qu'on ne le pouvait ni changer ni laver. Pour satisfaire ses besoins, on en fut réduit à ouvrir un trou sous son lit. L'ermite s'y employa, en homme de ressources qui avait naguère construit à son maître une chaise allongée qui lui rendait la goutte moins pénible. Cependant, la vermine grouillait sur ses plaies, les membres et le ventre gonflaient démesurément, et des abcès purulents de la taille d'un œuf de poule lui venaient sur tout le corps. Le roi resta conscient jusqu'au bout, se faisant lire l'Évangile, dictant précisément ses dernières volontés. Il appela ses enfants, l'infante Isabelle et le prince héritier, leur montra son corps puant et à demi corrompu. « Voyez, dit-il à son fils, où finissent les grandeurs de ce monde. Voyez ce qu'est la mort, et faites-en réflexion, car demain vous allez régner. » Le 13 septembre, vers 3 heures du matin, il se sentit partir. Il voulut mourir comme son père Charles, tenant le cierge béni à Montserrat et le crucifix tiré de la cassette de celui-ci, tandis que le prieur lui disait une dernière fois les prières des agonisants. Enfin, il murmura « Ya es tempo, enfin, c'est l'heure ». Et il passa à l'aube, tandis que les enfants de la chapelle chantaient dans la basilique toute proche la première messe du dimanche. On lui fit le lendemain un requiem que les musiciens avaient eu largement le temps d'apprendre. On dit cependant que le plus bel hommage lui fut rendu en la cathédrale de Tolède et qu'on chanta le très beau requiem de Cristobal de Morales, long fleuve de prières accompagné d'un seul basson. Morales était mort 35 ans avant le roi, qui aimait sa musique forte et austère. Philippe II avait fait ouvrir secrètement le cercueil de l'empereur, son père, pour s'assurer qu'on l'ensevelirait dans la même position. Du bois précieux dont on avait tiré son cercueil, il avait ordonné qu'on fît aussi la croix du maître-autel, la quille d'un galion portant le nom des simplets du Christ et un banc pour les pauvres à l'entrée du couvent. Philippe avait combattu sa vie durant les ennemis de la religion, ou du moins l'idée qu'il s'en faisait, hérétique, juif, mort, nation voisine. La mort d'un tel roi était donc quelque chose dans l'âme de son peuple et dans la mécanique des puissances. Elle me frappa moins cependant que le départ discret de 2 proches que la maladie emporta, non point jeunes encore, mais à un âge où ils pouvaient du moins espérer jouir paisiblement du fruit de leur travail. Anglebert Turlure partit le premier, comme s'il avait voulu suivre son maître dans l'autre monde et continuer à l'honorer de ses messes et motets qu'il faisait comme Poulpon ses œufs. Cet homme timide, qu'un hasard avait naguère fait éphémère vice-maître de chapelle, avait aussi une famille nombreuse, et c'était grand malheur de l'avoir laissé ainsi dans la solitude et la misère en une terre étrangère. Mathieu obtint pour elle un modeste subside et la fit rentrer par-delà. Long voyage que la veuve et les orphelins Turlure entreprirent par voie de terre, ce que la paix récente autorisait de nouveau. Je ne sus jamais ce qu'ils devinrent. J'eus plus tard la curiosité de m'enquérir d'eux dans le pays de Ciné, mais ce fut en vain. Je me plais à imaginer que la veuve de notre ami a trouvé quelque part en France un nouveau mari digne du précédent. Si les rejetons Turlure sont aussi prolifiques que leur père, le roi Henri y aura gagné de nombreux sujets. Nicès Houssart aussi, celui-là qui jadis nous avait conduits pour le grand voyage, en fit l'année suivante un plus grand encore, mourant à l'âge de 49 ans. Cet homme de naturel plutôt guilleré naguère s'était laissé à une sorte de neurasthénie dont rien ni personne ne semblait devoir le tirer. Il s'était ainsi persuadé que la peste qui frappait le royaume, passant de province en province pour se rapprocher de Madrid, n'aurait de cesse que de l'avoir frappé, lui, Houssart. Il avait fait son testament, me faisant l'honneur de me choisir comme héritier, conjointement à Antoine Hoquet, un autre chantre plus âgé de ses amis. Mais la peste l'ignora, aussi ne mourut-il que d'une sorte de consomption 2 ans plus tard, me laissant d'ailleurs plus de chagrin que de bien. Curieux hasard, mais y a-t-il un hasard dans l'enchaînement des choses de la vie, mon neveu Jean naquit la même année, le même été, où nous perdions l'ami Turlure. Je devais l'apprendre 6 semaines plus tard d'un nouveau courrier de ma sœur. La paix avait accéléré l'acheminement du courrier qui pouvait maintenant arriver en droite ligne à travers la France sans plus encourir les aléas de la navigation ni faire le détour de la route d'Italie. Antoinette regrettait de ne pouvoir me choisir pour parrain de son fils, faute de m'avoir vu au baptême, d'espérer même me revoir un jour, mais elle avait tenu à lui donner mon nom. Elle me l'expliquait simplement, en des mots maladroits et chargés d'émotions, où je sentis comme un appel. Je me dis que ce serait faillir que de ne point prendre un jour dans mes bras ce nouveau Jean de Namur. Dieu m'a donné depuis ce bonheur, et ce me fut chaque fois une occasion de songer à l'ami Anglebert qui quittait ce monde quand mon neveu y entrait. Peut-être se sont-ils croisés en ces régions incertaines qui sont aux frontières du monde visible et de l'invisible. J'en arriverai à le croire tant l'un me rappelle l'autre par cette bonté tranquille, ce doux caractère qui rendrait assurément le monde meilleur s'il y était davantage répandu. Pour une fois, ma sœur m'entretenait, à sa façon, des affaires d'État. Elle avait évidemment appris le mariage prochain de l'archiduc Albert, alors comme j'ai dit gouverneur par-delà, et comme Antoinette se faisait toujours de moi l'idée d'un grand intime de la famille royale, elle m'en parlait comme d'un homme avec qui j'aurais pu frayer sous peu et dont je devais connaître les bons comme les mauvais penchants. Elle ne semblait pas le porter en son cœur, le surnommant le fossoyeur, pour ce qu'il avait, l'année précédente, ordonné qu'une hérétique nommée Anna Hove fût enterrée vivante et assistée lui-même au supplice. J'ignorais l'épisode qui avait pourtant causé quelque émoi aux Pays-Bas et valu à l'archiduc ce sobriquet de mauvais augure.